Et du coup, on va passer à l'intervention de Martine Collignon qui est présente, si on peut la
Je
mettre.
suis là.
Voilà. Bonjour Martine, petite
Bonjour à tous.
présentation. Et puis, bah, on sera à l'écoute. Donc, Martine Collignon, un joli curriculum vitae, mais en gros, diplômée des Beaux-Arts, formée aux arts-thérapies à Paris 5, enseignante et co-responsable. À l'école INECAT, plasticienne, psychothérapeute et donc art-thérapeute à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, et aussi auteur de plusieurs livres, dont De l'art-thérapie à la médiation artistique et Les 20 grandes questions pour comprendre les art-thérapies en ouvrage collectif. S'il y a des choses à ajouter, Martine, on t'écoute.
Donc,
Ok.
moi, je me suis prêtée à l'exercice de réfléchir, en fait, à ce titre, faire et être. Et j'ai pas mal de casquettes, donc je vais poser la question avec trois casquettes différentes, qui sont celles de plasticienne, donc engagée dans des processus de création, qui est ma casquette d'accompagnatrice, je vais dire comme ça, pas d'art-thérapeute, mais dans le champ psychosocial, c'est-à-dire là où la souffrance dépose dans le social. Et puis, bien sûr, dans la clinique psychiatrique, puisque j'accompagne des adultes à Sainte-Anne en psychiatrie. Donc, la question moi, qui me taraude, effectivement, c'est la question du faire. D'un côté, la question du faire qui nous est posée, nous, en tant qu'artistes, faire, c'est pas si évident que ça. Ça veut dire pouvoir se loger. Avoir des repères, pouvoir trouver aussi une place importante, à la fois intérieure et extérieure, c'est-à-dire trouver un lieu habité pour pouvoir créer. Et donc cette question, elle se pose autant en art-thérapie que dans l'accompagnement des personnes que j'ai pu recevoir en entretien individuel, où j'utilisais quand même pas mal la médiation. Donc, dans le champ social, mais je préfère dire psychosocial, ce sont des personnes en grande précarité. Donc, évidemment, avec cette casquette d'accompagnatrice en psychosocial, ben, la question de l'exclusion, pour moi, elle est assez à la fois stigmatisante et elle est portée par toutes ces personnes-là. Elle fait appel, en tout cas, dans la relation, dans la rencontre, parce que ces personnes-là, ce qu'elles expriment, c'est qu'elles sont en dehors du groupe social, à la fois en dedans, mais en dehors, ce qui est une situation un peu affolante, puisque quand on a le RSA, on est dedans, et en même temps dehors, puisqu'on ne fait pas partie de tout le circuit, à la fois réel et symbolique, du grand groupe social. Donc, c'est la question du sens, en fait, qui vient occuper l'acte de création dans la vie de ces personnes, parce elle vient interroger la question de l'être, et notamment de l'être seul au milieu des autres, parfois invisible, ou parfois trop présent dans le groupe social. Alors, quand je parle j'ai donné comme titre un homme en trop. Je vais vous donner deux exemples, un qui va être pris donc dans l'accompagnement psychosocial et un autre qui est pris dans la clinique psychiatrique avec un patient délirant. Ce qui est pas simple. Donc cette question du faire, elle est posée parce que ce soit dans le champ psychosocial lorsqu'il y a une perte d'activité qui est professionnelle due à la maladie, au deuil, etc. De manière assez contradictoire ou paradoxale, je veux dire plutôt paradoxale, soit il y a une forme d'immobilité, soit il y a une forme d'agitation. Et dans les deux cas, en fait, ce soit dans l'agitation ou dans l'immobilité, il y a de l'indicible qui fait appel, voire de l'innommable, et qui va se perdre chaque fois que la personne, en fait, tente de demander ou d'appeler à l'aide. Et c'est une raison, cette souffrance, cet innommable, c'est une raison qui les amène à se taire et donc, pour éviter la douleur, en tout cas la détourner de sa cible. Donc, Notre question, dans un cas comme dans l'autre, c'est comment aider, comment provoquer une rencontre qui va permettre de sortir de l'errance, voilà, ou de la déshérence. Et en art-thérapie, donc je repose la question du faire, c'est comment faire face à une immobilité qui peut être mortifère pour certains patients, et donc armer et mobiliser cette envie de faire. D'un autre côté, dans la clinique, il y a la question du débordement, donc la question du lieu qui va être possible ou impossible de co-créer pour que le sujet puisse trouver, c'est ce que je disais au début, à se loger et à essayer de mettre quelque chose en forme de son rapport au monde. Si j'en reviens à mon premier exemple dans le champ psychosocial, ce que l'on doit prendre en compte, c'est que l'art est difficile à intégrer au milieu des urgences de vie et que ça n'a pas forcément de sens dans la relation. Donc, on va voir dans l'exemple que je vais donner qu'est-ce qu'on rencontre, qu'est-ce qu'on reçoit, qu'est-ce qu'on accueille de l'autre, comment on est attentif finalement à ce qu'il ne demande pas, hein, et qui est sous-jacent. Donc, ce sont des questions qui nous sont posées, je dirais, sans qu'elles soient nommées, sans qu'elles soient dites, mais en tout cas qui sont là et qui font appel. D'un autre côté, dans la clinique psychiatrique, on a tendance à penser que la proposition d'un atelier d'art-thérapie qu'on rentre du côté du soin peut être acceptable par le patient, comme ça, de prime abord. Or, moi, en tant que plasticienne, effectivement, très souvent, je ressens cette solitude de l'acte de création et ça renvoie aussi le patient, même s'il est au milieu du groupe, à cette solitude qu'il vit déjà dans son quotidien et qui va là, lui demander en fait de mobiliser une énergie colossale qu'il n'a pas, ou en tout cas pas encore. Donc je disais tout à l'heure qu'il y avait un paradoxe effectivement entre une immobilité, un retrait, et puis le débordement du malheur, de la douleur, etc. Et que d'un autre côté, en fait, certaines personnes sont occupées, je dirais, à courir, à développer, à, comment dire, à prendre plein de rendez-vous. Enfin, elles ont l'impression finalement qu'en interpellant, enfin en produisant tous ces actes, elles sont occupées à être. Du côté, alors là, je parle plutôt des personnes que j'ai rencontrées en clinique psychiatrique. Il y a plutôt une manifestation d'un excès d'être. Et notamment, on verra avec ce patient. Donc, il y a d'un côté un excès d'être et d'un côté une déshérence qui fait que on les qualifie d'invisibles. Or, pour moi, ils sont absolument pas invisibles, justement. Donc, je disais tout à l'heure qu'en tant qu'artiste, il est important de construire. De se loger en tout cas dans un espace qui soit habitable pour la création. Donc c'est comment aider la personne à créer, à co-créer avec le thérapeute. Je reviens juste, j'ouvre une parenthèse parce que sur ce qui a été dit avec les marionnettes, je pense que l'espace de l'art-thérapie est un espace de co-création et de croisement des imaginaires. Donc, il y a quelque chose qui est impliqué directement de l'imaginaire du thérapeute dans cette co-création. Et donc, en tant que plasticienne, je ne suis pas, c'est pas une question d'ego, c'est une question aussi d'implication dans la relation et de rencontre avec l'autre, dans un lieu, je vais dire, métaphorique, qui est la création. Donc habiter ce lieu, alors que les personnes ont été expulsées, dessaisies de tout, c'est compliqué et ça peut être vraiment un obstacle pour les personnes que nous recevons. Pour la raison que je donnais tout à l'heure, c'est que pour pouvoir créer ce lieu, il faut pouvoir délimiter un dedans et un dehors, c'est-à-dire ce qui appartient au sujet lui-même et puis à tout ce qui lui est étranger. Or, dans l'espace créatif, effectivement, les deux sont en jeu. Au niveau de la question de l'être, quand l'être souffre, il développe des actions qui lui permettent de survivre, qui lui donnent une prise sur lui-même, pour lutter contre la disparition de sa propre subjectivité. Donc, ça veut dire, la recherche d'une place, mais bon, cette place, elle n'est pas vraiment définie, ce qui veut dire que, notre espace proposé en art-thérapie est un espace qui est pris comme support d'être et qui va provoquer des peurs comme, ne pas être à sa place, ne pas avoir de place, ce qu'on retrouve effectivement dans l'exclusion, c'est pour ça que je fais des parallèles. La question aussi de l'expérience, et on le sait nous aussi en tant qu'artiste, chaque expérience est en sorte, enfin comporte en tout cas un péril. Donc, s'engager dans le faire, s'engager dans une expérience, bah, peut mettre en danger effectivement ou bousculer les repères identitaires qui ont été mis en place par les personnes et en acte aussi, comme je disais tout à l'heure. Donc, dans l'atelier, il s'agit d'inciter, d'accompagner la personne à se donner de l'espace où s'inscrire, d'y prélever un espace de repos pour être, de donner aussi, donc, à l'événement dans l'expérience, pour moi, plasticienne, ce qui survient sur le support, une ouverture, où l'art thérapeute peut se transposer ou se transporter, et un milieu, donc, qui soit véritablement autre, inattendu, mais habitable pour le sujet. Dans les deux cas de l'accompagnement, il s'agit d'accueillir ce qui s'est glacé, qui déborde, qui harcèle, mais en même temps de respecter le temps, souvent long, pour un retour du vivant et d'une unité. Alors cette unité, elle est difficile à penser pour certains patients ou pour certaines personnes. Donc voilà, je vais prendre deux personnes que je vais appeler Bernard et Pierre. Qui agissent dans le monde de manière différente. Donc, il y en a un qui est complètement retranché, qui évite tout lien social, et un autre qui est à la recherche permanente d'une écoute et d'un accueil de sa singularité. Le premier, donc Bernard, c'est un monsieur d'une soixantaine d'années, en fait, qui a été orienté par sa référente RSA, que je vais suivre pendant 4 ans, à raison d'une fois tous les 15 jours. La première rencontre, ce monsieur arrive complètement emmitouflé, avec un bonnet qui lui arrive pratiquement sur les yeux. Il a une veste, un manteau, une écharpe. Enfin bon, il est complètement. Il a mis beaucoup d'enveloppes et il est sur le seuil du bureau et il est là complètement apeuré. Il n'ose pas rentrer. Il pose plein de questions, je le sens vraiment complètement fébrile en disant, voilà, moi je suis orientée par ma référente RSA, mais qui êtes-vous, que faites-vous, qu'allons-nous faire ensemble? Enfin, il me bombarde de questions tout en restant sur le seuil de la porte. Donc ce que j'apprends, c'est qu'effectivement, il a eu une expérience qui a été très difficile pour lui parce que il a été orienté par sa référente. Devant la souffrance qu'il exprimait, vers une psychologue, et il s'est enfui à toutes jambes parce que c'était insupportable, c'était pas du tout la demande qu'il avait faite. Donc il vit vraiment dans une solitude extrême, il est dans un logement social, il est un peu comme une bête traquée, méfiant, mais ça vraiment à l'égard de tout professionnel qui voudrait venir en aide. Donc il n'a pas de demande. Il n'a pas de demande et donc voilà, il pose cette question, qu'allons-nous faire ensemble? Si ce verbe faire est un verbe actif, il n'a pas d'activité du tout, ce monsieur. Mais en parlant avec lui de loin, puisque je vous rappelle, il est sur le seuil de la porte, donc je finis par lui dire, parler de la pluie et du beau temps, vous êtes emmitouflé, est-ce qu'il fait froid dehors, etc. Et puis de lui dire, mais. Est-ce que il y a quelque chose que vous appréciez, qu'on pourrait partager, etc. Et à ce moment-là, il me dit, oui, je lis énormément, j'adore la littérature, etc. Et je lui dis, bon, bah, voilà, c'est, puisque vous aimez la littérature, eh bien, on va parler littérature. Et là, il est complètement, surpris par la réponse que je lui fais. Et c'est effectivement ce qu'on va faire, en tout cas au début, hein, on va échanger sur les livres, à la fois ceux que je lis moi, ceux qui me plaisent, et ça va être des rendez-vous uniquement d'échange, voilà, entre lui et moi. C'est pas rien ça, parce que pour moi, ce qui est important pour ces personnes-là, puisque je parlais d'espace, pouvoir se loger, c'est que ce sont des personnes qui, d'une certaine manière, n'ont pas le droit à la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lieu ni d'écoute. Il n'y a pas de lieu d'écoute, mais il n'y a pas de lieu non plus pour faire avec leur détresse. Et donc, ce qui est important pour moi dans ces entretiens, c'est justement de pouvoir redonner la parole à ces personnes-là, non seulement de les écouter, mais de leur redonner, je vais dire, le droit de débattre. C'est-à-dire, bon, j'ai à la fois des choses que j'aime, des idées que je me fais sur le monde, voilà, mais personne ne m'entend, personne ne s'intéresse à tout ça. Donc ça devient un lieu de partage où on est vraiment dans un échange d'idées, de références, et on en vient petit à petit à parler de son quotidien, voilà, où j'apprends que son appartement, enfin, il va énoncer un certain nombre de choses. Comme bon, tous les conduits qui sont bouchés, le papier qui se décolle, l'humidité, etc. Bon. Et puis petit à petit, je vais pouvoir lui proposer, lui dire, bon, vous aimez la littérature, est-ce que vous aimez aussi les images? Et à ce moment-là, il y a un intérêt, me dit non pas particulièrement, mais je dis, ce serait peut-être intéressant pour vous de trouver une image que vous aimez et peut-être d'écrire un texte à partir de ça. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais accompagner là par le biais de la médiation écriture, donc de lui donner effectivement un espace où il va pouvoir écrire une sorte de fiction et sortir un peu de son récit sur son quotidien et tout ce qu'il vit. Lui, dans sa solitude, ça va pas être très facile pour lui, hein. C'est-à-dire que là, il se rend compte que, oui, pouvoir partager, c'est bien, pouvoir faire, pouvoir créer à partir des mots, ça devient vraiment compliqué pour lui. En même temps, l'intérêt, alors, qui est partagé, le croisement des imaginaires, c'est-à-dire que je vais pouvoir lui proposer un peu de mon imaginaire, petit à petit, pour que puisse s'ouvrir en lui, en fait, cet espace-là aussi, qui l'a mis complètement entre parenthèses. Enfin, je parlais tout à l'heure de glaciation, mais il y a quelque chose de complètement glacé au niveau des émotions, des affects, pour lui. Donc cet espace, ça va mettre du temps, mais il va pouvoir se l'approprier et pouvoir vraiment petit à petit entrer dans la fiction et sortir de ce récit, en fait, de son quotidien. C'est un accompagnement donc qui va durer longtemps, hein, pendant 4 ans, et qui va lui permettre. Il va y avoir plusieurs, en fait, plusieurs étapes. Où il va énoncer un projet qui est en fait un projet de lecture à haute voix. Alors, vous voyez, c'est toujours relié à la lecture, pour éventuellement des personnes âgées, c'est-à-dire de se proposer dans les EHPAD pour lire des textes à voix haute qu'il affectionne particulièrement. Et donc, c'est compliqué pour lui. Il ne peut pas affronter l'autre et pouvoir lui parler de son projet. Donc, on va en passer par le directeur du centre social pour qu'il puisse lui présenter son projet. Mais bon, ça va être un projet complètement avorté parce qu'il n'arrivera pas à faire les démarches. Mais petit à petit, il va s'intégrer dans ce centre social. C'est un monsieur qui a quand même fait une classe préparatoire. Il a un certain niveau intellectuel, et On va lui proposer en fait de faire du soutien scolaire. Et petit à petit, il va s'impliquer effectivement dans aider les autres, voilà, et prendre de plus en plus de place dans ce centre social jusqu'à participer au conseil d'administration. Voilà, ça c'est encore 2 ans de plus. C'est un accompagnement donc sur au moins 6 ans. Voilà pour ce monsieur. Ensuite, je voudrais parler d'un patient donc qui s'appelle que j'ai appelé Pierre, donc qui est comment je vais dire, je vais pas dire le sujet, qui est l'acteur de mon dernier ouvrage du délire au songe en art thérapie. Alors à Sainte-Anne, lors de nos formations, on apprend que le délire est une contre-indication et qu'on ne prend pas les patients délirants en atelier d'art thérapie. Il se trouve que ce monsieur, et c'est ce que je présente dans mon ouvrage, je l'ai suivi pendant 4 ans. Donc première période en art thérapie où c'était un patient, donc il est schizophrène, hein, il a une décompensation mystique. Mais les 4 premières années, il était stabilisé, donc faisait des productions très riches, expérimentait tous azimuts, sans se poser de questions, avec vraiment un partage avec les autres patients, avec moi-même, au niveau des références artistiques, des expérimentations, etc. Et puis, il est parti puisqu'il allait bien, donc on a arrêté la prise en charge en art thérapie. Il s'est inscrit dans un atelier de sculpture et puis il est revenu 3 ans après, et puis complètement délirant. Ça a été compliqué, ça a été compliqué d'accueillir ce patient dans le groupe parce qu'il parlait énormément. Il parlait énormément de sa recherche d'unité en fait. Dans un discours complètement incohérent et fragmenté, mais très touchant, et les patients ont accepté hein, qu'ils participent aux ateliers d'art-thérapie, ont été très, très accueillants de ce qu'il faisait justement appel chez lui, malgré donc cette digression sur Dieu, l'amour de Dieu, la petitesse des hommes, etc. C'est un monsieur qui a fait pas mal d'études en philosophie, en médecine, etc. Donc, a beaucoup de références, beaucoup, beaucoup de références philosophiques, mais aussi anthropologiques, enfin, un peu dans tous les domaines. Donc, intéressant en même temps, hein. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, en art-thérapie, on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans, comment dire, on n'entre pas dans le contenu du délire, mais ce qui nous importe, c'est d'accueillir en fait l'expérience. Je parlais d'expérience tout à l'heure, l'expérience singulière en fait de ce patient avec la religion. C'est ça qui nous importe. Quelle est son expérience? Comment il en parle? Et comment cette expérience peut l'amener? Enfin, comment nous pouvons l'aider finalement à mettre quelque chose en forme de cette expérience-là? Et donc, qui est pour lui un contact avec le monde, qu'on le veuille ou non, c'est son contact avec le monde, et on n'a pas essayé de comprendre au niveau de ce qu'il raconte, mais de vraiment de s'attacher à cette expérience. Donc, au début de cette seconde période, bah, il fait pas grand-chose, hein. C'est-à-dire, soit il parle beaucoup. Soit il est complètement prostré dans une solitude, mais vraiment très fermé. Moi, je parle d'un ailleurs de la pensée, et c'est difficile de savoir où est justement cet ailleurs de la pensée et comment moi, en tant qu'art-thérapeute, je vais pas rentrer dans cet ailleurs de la pensée, mais qu'est-ce que je vais en saisir pour pouvoir l'accueillir et essayer de comprendre ce qui fait, ce que je disais tout à l'heure, ce qui fait appel finalement. Bon. Donc, petit à petit, il va pouvoir quand même produire quelques traces. Mais ce sur quoi je vais me concentrer en fait, quand il fait ces quelques traces, c'est ce qui pour lui est opérant, puisque c'est une image, quelques traces, c'est une image. Donc, qu'est-ce qui va être opérant pour lui dans les images? Et la manière dont finalement Pierre va les faire fonctionner. Voilà, c'est ça qui, dans un premier temps, va vraiment me saisir, si je peux dire ça comme ça. Je vais laisser ça venir me squatter. Voilà, c'est ça qui est important, hein. Comment ça vient, moi, me pénétrer dans mon corps et pas simplement dans mon mental. Et donc, m'attacher vraiment à l'expérience elle-même et à ce qu'elle me dit. Et puis, il y a une deuxième chose qui est importante, c'est finalement, il y a des objets dans l'atelier qui font signe pour lui. Et évidemment, les objets qui lui font signe, ils font pas signe pour moi de la même manière. Donc, il va y avoir un dialogue qui va s'instaurer entre l'objet qui fait signe pour lui. Alors, je vais vous dire, ça peut être les chaussures de la stagiaire parce qu'elles sont blanches. Ça peut être un tablier que je vais lui donner parce qu'ils sont tout neufs et que voilà, je voudrais qu'il s'empare d'un objet de l'atelier. Ça peut être des papiers de bonbons, des sachets de thé, etc., parce que les patients lui ont préparé un thé ou lui ont donné des bonbons, etc. Donc, c'est ce qui va faire signe, en fait, pour lui. Je vais essayer de les lui présenter dans un espace de création qui soit habitable pour lui. Et il va s'en emparer, il va faire de plus en plus des petites installations, voire quand il n'y a pas trop de patients, des performances. Je vais le laisser aussi faire des performances, ce qui pour moi est une autorisation au niveau de son errance, parce qu'il est en déshérence. Vraiment, il est en déshérence de par les mots, le langage qu'il essaie d'attraper comme ça. Mais il est en déshérence aussi parce qu'il y a des périodes où il vit dans la rue. Donc, on le voit, hein, quand je parlais d'un être en trop et d'un excès d'être, je parle de ça. C'est-à-dire qu'il y a des signes aussi, hein, qui montrent cet excès d'être, hein, les odeurs, les habits déchirés, les comportements, etc. Et qui vont faire partie aussi d'une attention particulière de ma part. Hein, parce que c'est d'abord, je dirais, le corps du patient, quoi, qui rentre dans l'atelier que j'accueille, hein. Avec son agitation, comme je disais tout à l'heure, au contraire, son immobilité, son immobilité parfois mortifère, mais parfois non, parfois rêveuse. Et je pense qu'en art-thérapie, on est dans un partage. Moi je dis on est dans une rêverie partagée. Donc, moi c'est important ça, c'est-à-dire que ce que j'invite, enfin ce qu'on fait ensemble, ce qu'on crée ensemble, c'est un lieu où il est possible de rêver plutôt que de délirer. Et c'est comment rêver par la création, en fait. Voilà. Je dis que il y a des objets qui font signe pour lui dans l'atelier. Bien. C'est important parce que c'est aussi pour moi et pour lui, bien sûr, un effort de communication avec l'autre. À partir du moment où il intègre des objets qui lui ont été donnés par les autres, il y a quelque chose qui nous dit que il essaie par là de montrer que non seulement il est présent, qu'il peut recevoir, mais qui peut aussi, par la création, s'adresser à l'autre. Et donc, dans ces installations, très souvent, il y a vraiment une adresse à l'autre, comme je donne un exemple, un jour, une patiente avait réalisé une peinture, la peinture d'un ange, et elle retrouve la séance d'après les ailes qui sont découpées. Quelqu'un avait découpé, en fait, les ailes, pardon, de l'ange, parce que certainement on n'avait pas de papier noir, et comme c'était sur du papier noir, ben, voilà, on retrouve l'ange amputé des deux ailes. Bon. Et ce patient qui a entendu toute la discussion autour de la perte terrible des ailes de cet ange va confectionner, alors là, cette fois-ci sans rien dire, hein, il se saisit de papier, de scotch, d'agrafeuse, enfin, de tout ce qu'il y a dans l'atelier. Il va réaliser une sculpture et je m'aperçois en fait que c'est complètement abstrait, hein, mais que de cette sculpture abstraite sortent deux ailes gigantesques. Et il finit par écrire sur le socle pour notre patiente, donc il donne son prénom Et il me dit à la fin, est-ce que vous m'autorisez, puisque les créations ne sortent pas de l'atelier, hein, il me demande s'il peut la donner à cette patiente. Voilà. Et je l'autoriserai à le faire. Donc, vous voyez que toutes les installations, les performances, etc., les objets qu'il va intégrer dans ses créations sont, et il invite aussi, hein, par exemple, il va faire une petite installation autour de la cafetière, qui est un objet qui est partagé par l'ensemble des patients. Donc, c'est comme si, d'une certaine manière, il nous invitait à un espèce de repas symbolique avec lui, par le biais de la création. Voilà. Bah, j'ai essayé de faire avec un peu. Je me suis perdue un petit peu tout à l'heure, mais ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que cette question du faire et l'être, elle n'est pas si simple que ça. Et que dans un cas comme dans l'autre, c'est un temps très long pour permettre à ces personnes qui sont complètement en retrait, quelle que soit leur problématique, soit une problématique d'ordre psychiatrique ou une problématique liée à l'exclusion, pas si évident que ça, d'amener la personne à faire, c'est-à-dire comment elle arrive à finalement intégrer ça dans sa vie. Hein, c'est pas simple, même si nous, art thérapeute, on pense que voilà, ça a tout à fait sa pertinence. Mais c'est le faire avec, et finalement sur qu'est-ce qu'on accueille de l'appel de l'autre, alors qu'il n'y a pas de demande ou qu'il n'y a pas, si vous voulez, de sens à ce qu'on propose. Et comment finalement, par le détour de la création, en prenant du temps, en allant vraiment vers l'autre et en partageant cette espèce d'état flottant, qui est la rêverie. Moi, je préfère le mot songe à rêverie. Voilà, c'est quelque chose qui m'importe moi beaucoup en art-thérapie et qui nous amène finalement dans un espace, je dirais, plus poétique ou poétique, voilà, que du côté du soin proprement dit. Voilà ce que je voulais dire.
Merci. Alors, on peut proposer au public de lancer, enfin, de proposer des questions, des réflexions. Moi, oui, on va sortir de l'espace poétique, mais je voulais juste poser une question parce que c'est sur côté un peu pratique et de cadre. Effectivement, quelqu'un de délirant, pas stabilisé, on peut se dire que c'est une contre-indication à l'entrée en art-thérapie. Pourtant, parfois, bah, on va voir l'équipe ou les médecins qui vont quand même l'orienter. Finalement, cette personne délirante, bon, il y a eu tout ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment contre-indiqué ou c'est quand même du cas par cas?
C'est du cas par cas. Et je pense que ce qui a été facilitant, c'est que je le connaissais avant. Et que dans le groupe de patients, ils le connaissaient aussi. Et ils en prennent vraiment soin. Hein, parce qu'il vient encore maintenant, là, il va mieux. Mais ils sont vraiment aux petits soins pour lui. Donc c'est important aussi que le groupe se sente pas mis en danger par l'envahissement du délire dans l'atelier. Mais c'est aussi comment l'art thérapeute, finalement, assure un espace suffisamment contenant, habitable pour le patient, je veux dire supportable pour lui. Hein, parce que, évidemment, nous, on dit on faut qu'on supporte le délire. Mais lui, est-ce qu'il peut supporter un atelier, par exemple, qui est relativement silencieux? Mes ateliers sont relativement silencieux. Hein. Donc, c'est comment l'amener, justement, à finalement bah pouvoir petit à petit apaiser ces idées-là qui partent dans tous les sens et pouvoir se mettre à faire, c'est bien ça. Hein, c'est-à-dire que d'un côté, il y a un excès d'être et puis de l'autre, il y a un apaisement petit à petit qui lui permet d'être autrement. Mais c'est une partie de lui-même. Il ne
Donc, il y a
peut
la
que
fonction,
bien.
ouais, contenante de leur thérapeute, mais aussi une fonction du groupe
Oui,
à aider cette contenance. Okay.
absolument.
Oui, j'entends.
je voulais rebondir justement. Merci beaucoup, Martine, pour cette présentation. De plus que là, depuis un moment, on parlait beaucoup aussi de l'être, de l'art thérapeute. Et là, tu nous proposes justement l'être du patient avec un trop d'être.
Oui.
ou un peu d'être pour pouvoir leur offrir une place pour qu'elles puissent presque exister et ne plus être invisibles aussi. Et tu poses plein de d'éléments et d'interrogations aussi sur ta partie, sur la personne aussi en grande précarité, quels espaces aussi pour être. Et à ça, j'entends ce que tu dis sur aussi le délire, ce que Justine, tu posais comme question, ce que voilà, c'est contre-indiqué, oui et non, c'est le cas par cas, et comment justement dans cet espace, tu accompagnes pour rattacher à une réalité partageable, parce qu'il peut en avoir plein de réalités, et comme tu le dis très bien, ne pas rentrer dans le délire, mais créer un espace comme toi, tu appelles le songe, de rêverie partagée, et que même au sein du groupe est accueilli pour pouvoir le faire. Et ça m'amène, parce que tu parles de la poétique, tu parles de la dimension vraiment artistique, mais on voit tous tes outils et ton bagage en tant que clinicienne. Parce que accueillir et accompagner une personne délirante, et même au cas par cas, nécessite justement de cet appui. Et donc, je viens à cette notion. Justement de cette formation, ces compétences de l'art thérapeute ou cet être art thérapeute qui peut créer ces espaces. Je ne sais pas si tu veux développer un peu plus de ce côté parce que c'est pas si facile que ça en fait. C'est pas évident. En plus, c'est un patient que tu connais, qui est touchant et tout. Mais voilà, comment ne pas glisser sur certaines choses? Donc, quelles alertes, quelle attention pour les art thérapeutes? Et là, je crois qu'il y a d'autres questions. Il y avait des choses qui viennent. Voilà, défiler dans les commentaires.
Oui, c'est bah de toute façon, ça fait longtemps hein, que je travaille en clinique, dans le champ clinique, donc j'ai fait un travail sur moi-même très long, mais pas seulement. Je veux dire, c'est vrai qu'au début de mon exercice d'art thérapeute, j'aurais jamais pu accompagner un patient délirant. Il faut beaucoup de force et beaucoup de. Enfin, quand je dis force, c'est il faut taire en soi beaucoup de choses pour pouvoir permettre justement à tout ce que dit, tout ce que raconte, tout ce qui fait appel, pour que ça puisse entrer en nous sans nous mettre en danger, sans trop nous perturber. Et c'est propre aussi de l'art thérapeute hein, de pouvoir faire d'avoir ce rôle de par excitation, je dirais pour envers le patient, mais pour soi-même aussi, hein, parce qu'on parle de par excitation pour le patient, mais on fait aussi par excitation pour soi-même dans cette en tant qu'art thérapeute, c'est très important. Sinon, c'est d'une violence extrême. Donc, il faut travailler à la fois sur cette question de ce qui peut nous faire violence et ce qui fait violence chez l'autre aussi, hein, parce que si justement, cette implosion qui est le délire, cette fragmentation qui est le délire, toutes les expériences qu'il a pu faire, qui étaient des expériences très, très archaïques, qui ont été ressenties par ma stagiaire comme une mise en danger, c'était insupportable pour elle, hein. Donc, il faut pouvoir effectivement accompagner ces expériences archaïques de manière profonde, mais ça veut dire être occupé à être art thérapeute. Hein, il faut que l'art thérapeute occupe toute la place pour pouvoir border justement ce qui a tendance à complètement déborder et exploser. Hein. Il y a une implosion interne, psychique, mais il y a aussi une explosion qui peut rejaillir sur tous les autres patients qui sont présents.
Et
Donc,
justement, cette question de la violence et de ce qui peut exploser dans le groupe, là, on avait une question de Béatrice, mais moi aussi, je me l'étais notée. À un moment, il y a quand même eu une destruction d'une création d'une patiente. Donc, à un autre moment que ce groupe, j'imagine, comment on gère ça, en fait? Tout à coup, la patiente, elle retrouve sa création détruite pour des raisons matérielles. Comment est-ce que c'est possible même comment c'est arrivé?
ça peut arriver. Il y a des disparitions parfois de production. C'est la première fois qu'il y avait une production à couper. La chance que j'ai eue, et tout ça, il y a de l'inconscient, hein, c'est-à-dire qu'on fait les choses de manière intuitive et on ne sait pas ce qui va pouvoir bouleverser après. À un moment donné, elle m'a demandé de prendre une photo. Il se trouve que la photo a été prise au moment où l'ange était entier. Incroyable! Et donc, j'ai fait un tirage de cet ange dans son entier que je lui ai donné. Mais vous voyez comment ça passe. C'est-à-dire que là, je ne me suis pas sentie dessaisie. Mais finalement, qui a été thérapeute dans l'histoire? C'est Pierre. C'est Pierre qui est venu réparer, en fait, par sa sculpture en papier, avec ses grandes ailes, qui est venu réparer finalement ce qui avait été bouleversant, parce que c'est une perte inestimable, fait qu'on coupe comme ça une peinture. Donc, vous voyez comment aussi les patients dans le groupe peuvent occuper aussi cette place à certains moments. Mais s'ils occupent cette place à certains moments, c'est que leur thérapeute leur laisse cette place, vous voyez? Hein, pour moi, cette question d'habiter, elle est vraiment éminemment importante, hein, c'est-à-dire cette question de comment la création vient se loger, comment l'art-thérapie, le soin vient aussi habiter l'espace symbolique qui est l'atelier, enfin la séance, pas simplement l'espace de l'art-thérapie, mais de la séance. Comment tout ça, en fait, hein, c'est des habitats qui sont comme un collier de perles, en fait, qui s'enfilent. Et voilà comment ça a été réparé. C'est très étonnant, mais ça arrive. Ça arrive. Et je pense que là, effectivement, il faut pouvoir donner cette place aussi aux patients. C'est important aussi, puis se saisir de cette place-là.
Mais en fait, on pourrait faire le lien avec cette idée de d'habiter et d'être ensemble et de revenir peut-être aussi à l'idée fondamentale du groupe. Hier, on parlait de tout ce qui était communauté, on en a encore reparlé ce matin, de en fait se remettre à faire des choses ensemble. Ou par exemple avec Bernard, ben, ça a commencé déjà par une rencontre avant même d'être dans le faire. C'était
Oui.
pouvoir échanger. J'essaie de reprendre ouais, l'échange, la rencontre, de voir quel est son intérêt, parce qu'il n'a pas de demande, mais pourtant il est là. Et de revenir au lien humain, peut-être qui est enfin, pas fondamental, mais
Bah,
tout en
si.
bas de la relation, je ne sais pas comment dire.
Non, non, je pense que ce lien d'humanité, il est vraiment très important. Et surtout justement non pas surtout, je pense dans tous les domaines que j'ai traversés, il est vraiment important ce lien d'humanité. Parce que c'est vraiment ce qui fait appel dans la rencontre. C'est vraiment être de nouveau au milieu des autres, être entendu, être vu, être reconnu dans ce qu'on est, dans sa singularité. C'est très important. Et je pense que c'est ça. Mais vous avez raison, avant le faire, il y a cette rencontre possible ou impossible. Et c'est pour ça que j'aime bien ce monsieur qui est sur le seuil de la porte. Parce qu'il n'est ni dedans ni dehors, il est sur un temps suspendu où le sens de sa présence est suspendu. Il ne sait pas ce qui va lui arriver, il ne sait pas ce qu'on va faire ensemble. Il ne sait pas ce qu'il va être ou ce qu'il va pouvoir être. C'est-à-dire, il ne sait pas ce qu'est le à venir pour lui. Et si je suis la professionnelle qui va lui permettre, l'aider en tout cas, à entrer dans cet à venir, parce qu'il sait pas, il ne sait pas, voyez. Donc, c'est le faire vient après, quoi. Et je pense que c'est pas le faire pour être, c'est être pour faire, hein, d'une certaine manière. C'est-à-dire, c'est avant pouvoir s'habiter soi-même, se réhabiter soi-même, pour pouvoir penser, se penser dans une activité, se penser dans une création, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément de passer par de l'artistique, hein. C'est pour ça que je parlais du débat, etc. Parce que le débat d'idées, c'est une manière aussi à la fois de faire et d'être. C'est de faire de la conversation, c'est de faire du débat. Donc on est aussi dans la question du faire et de l'être.
Merci Martine,
C'est
on arrive.
intéressant, je rebondis sur ça. C'était très intéressant cette partie où tu expliques qu'effectivement, bah, pendant un certain nombre de séances, tu mets de côté, on va dire, entre guillemets, ta médiation, la personne pour entre guillemets, la chose pour laquelle la personne est là, parce qu'il faut un autre chemin pour aller le trouver. C'était intéressant aussi de, voilà, de s'autoriser
de s'autoriser ce genre de chemins qui sont peut-être des chemins qui sont un peu à côté, mais qui sont indispensables pour qu'un lien, un réel lien se crée.
Absolument.
Du
C'est
coup, on
aussi
arrive au...
fatigant, qui est-ce qui dit ça?
C'est moi qui dis ça, bah, c'est le délire en fait, c'est que le travailler avec des gens délirants, et je voulais un peu rebondir et peut-être conclure là-dessus, de l'importance d'une supervision, c'est que,
Oh oui.
il y a différents thèmes et différents mécanismes dans le délire. Ça peut être mystique, comme ça peut être paranoïaque, comme ça peut être mégalomaniaque ou érotique. Ça vient résonner avec nos parties à nous. On a tous des petits bouts un peu parano, un peu ceci, un peu cela. Et donc, d'où l'importance aussi d'être, de se protéger dans un espace de supervision, de bien se connaître, d'avoir une équipe. Parce que quelqu'un de délirant peut vraiment nous emporter dans sa spirale, alors que ce soit un délire par, enfin, schizophrénique ou quelqu'un qui, enfin, ou d'autres mécanismes très puissants. Voilà, c'est aussi important d'être solide parce que ça vient nous prendre aussi notre énergie. C'est pour ça que je dis que c'est fatigant, parce que pour avoir des patients délirants, des fois je me dis, ah, je pourrais faire la carte de, ah ben non, il n'est pas stable, c'est contre-indiqué. Mais en même temps, je peux peut-être quand même l'accueillir et on aurait toute une journée, besoin au moins d'une journée pour aller là-dessus. Mais voilà d'où le c'est fatigant.
C'est
Merci
sûr.
beaucoup, Martine.
Ben merci à vous en tout cas. Merci pour votre écoute et puis de m'avoir accueilli.
Vas-y, Angela, et puis
Oui,
on enchaîne.
il y a une phrase qui me vient avec tout ce qu'on a entendu, et pour reprendre la thématique du colloque, c'est en fait, on est là pour laisser être et laisser faire pour que la personne puisse se sentir exister, à la fois dans la relation avec l'art thérapeute, à la fois dans le groupe, s'il est dans un groupe, et à la fois dans ce qu'il peut exprimer sur un plan du faire, enfin, sur un plan de la création de quelque chose de tangible, d'éphémère, peu importe, mais c'est vraiment laisser être, créer cet espace pour laisser être et laisser faire, et même accepter que des fois, rien ne se fait.